Bonjour à chacun. Je veux prier. S'il est possible que le partage de l'Écriture ce matin soit adoration. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. C'est pourquoi je t'ai contemplé dans le sanctuaire pour voir ta force et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que mille ailleurs. Mes lèvres célèbrent tes louanges, ainsi je te bénirai toute ma vie. Je lèverai mes mains en faisant appel à toi. Je serai rassasié par une nourriture succulente et abondante. Et avec des cris de joie sur les lèvres, je te célébrerai. Amen. Toute la parole de Dieu célèbre Dieu, n'est-ce pas? Et nous voulons continuer à célébrer Dieu, à nous approcher de Dieu, avec ce thème qui vous concerne, Église de Cossonay, être rencontré par Jésus pour le suivre. Pour suivre Jésus, nous avons besoin d'être rencontrés ou d'être re-rencontrés par Jésus. Je ne sais pas de votre côté, mais pour ma part, je me suis converti à 11 ans et ça fait belle lurette que j'ai rencontré Jésus et j'ai besoin d'être re-rencontré par lui à nouveau. Et j'aimerais vous présenter 4 attitudes qui favorisent une rencontre avec Jésus et aussi 3 obstacles qui peuvent être un obstacle dans notre rencontre avec Jésus. Effectivement, Jésus nous invite à une rencontre avec lui. Et c'est une invitation. On est dans du discipulat. Hein. Jésus invite chacun à une relation personnelle avec lui. Et suivre Jésus commence par développer une relation avec lui, une relation de confiance, afin que notre amour pour lui soit amplifié aussi. Et pour le connaître personnellement, il est important de le rencontrer. Qu'est-ce qui facilite une rencontre vivifiante avec Jésus? Je me suis intéressé à l'histoire de la Samaritaine, une belle rencontre, très surprenante en fait, si on regarde cette rencontre avec la Samaritaine, parce que on voit la Samaritaine qui a vu d'abord en Jésus quelqu'un qui avait soif. Et j'aime bien, merci pour ce verre d'ailleurs, parce que c'est pour ce message, j'ai l'impression que j'aimerais chacun... D'ailleurs, est-ce que vous avez soif au premier rang? Ouais. Mais j'aimerais donner à chacun un verre d'eau, puis parce que ce message, à mon avis, il y a quelque chose qui manque si on ne peut pas avoir un verre et le goûter, vraiment. Une eau qui est fraîche, une eau qui est bonne, dans ce pied du Jura aussi. C'est de l'eau de source, hein, j'imagine, c'est l'eau du robinet. Oui, oui, on est d'accord, mais quel bonheur on a d'avoir cette eau-là. C'est de l'eau vive, quoi, ce n'est pas de l'eau stagnante ou de l'eau qu'il faut filtrer, voilà. Mais cette rencontre est surprenante. Samaritaine voit d'abord quelqu'un qui a soif, puis elle eut des réticences envers l'homme qui est juif, un homme qui est juif, il y a des réticences, il y a une distance historique. Puis elle interrogea le sage. Après, elle était corrigée par le prophète. Et puis après, elle a adoré le Christ, le Messie, l'espérance du peuple juif, mais aussi des Samaritains par le Pentateuque. Puis après, elle est devenue la première apôtre du monde païen. Elle a annoncé le sauveur de l'humanité en Samarie. Et ça, tout ça, c'est la femme samaritaine. Ce n'est pas les disciples, parce que les disciples, eux, pendant ce temps, ils allaient au supermarché faire des courses. C'était là leur souci. Donc c'est une histoire de fou, en fait. Être rencontré par Jésus, première attitude, c'est... dans ces 4 attitudes que j'ai évoquées avant, c'est s'attendre à Jésus. Ça veut dire croire que Jésus veut me rencontrer, croire que Jésus veut me rencontrer aujourd'hui, veut rencontrer chacun. C'est vrai qu'on voit Jésus qui invite la Samaritaine à entrer dans une relation parce que lui-même veut entrer dans une relation d'alliance spirituelle avec elle. Jésus, on le voit, assis au bord de ce puits, il est fatigué, il est dans la faiblesse, il a soif. Et le texte nous dit « Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. une femme de Samarie vint puiser de l'eau, Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Il faut savoir qu'il y a 3 jours de route entre Jérusalem et la Galilée, 3 jours de marche, c'est conséquent. Je ne sais pas si vous avez déjà fait 3 jours de marche non-stop, avec des pauses bien sûr, mais c'est conséquent, surtout dans ce climat-là. Et avec le matériel qu'ils ont à l'époque, hein, leurs sandales, on voyait pendant la louange hein, les sandales de Jésus, il y a de la poussière, ça frotte, c'est compliqué quoi. Et Jésus a soif. Ce qui est fou ici, c'est que dans l'évangile de Jean, on a, dès le commencement, Jésus, on comprend qu'il était au commencement du monde, il était créateur aussi, il a tout créé par sa parole. Et c'est Jésus-là qui se retrouve au bord d'un puits et qui a soif. C'est pour la Samaritaine que Jésus est faible, c'est pour la Samaritaine que Jésus est dans la faiblesse, c'est pour la Samaritaine que Jésus a soif. Lui qui était justement auprès de Dieu dès le commencement, lui qui, par qui tout a été fait par Jésus. Et il est dans sa faiblesse. Lui qui est la force même, il est faible, fatigué et assoiffé. Il nous a... Et l'évangile de Jean nous l'explique dans Jean 3,16, un autre moment où il y a des quiproquos avec Nicodème. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En fait, Dieu a donné sa vie pour que nous ayons la vie. Et là, cette soif qu'il a dans ce moment-là, Jésus, c'est quelque chose du don de sa vie déjà, pour que nous, on ait la vie. Et ce n'est pas anodin qu'il le fasse, que cette rencontre se fasse au bord d'un puits, parce que le puits, c'est un lieu de rencontre. C'est Isaac, Jacob et Moïse ont rencontré au bord d'un puits leur future épouse. Ce n'est pas anodin, ça. Et là, Jésus rencontre, et on parle de Jacob, c'est le puits de Jacob. Hein. Et là, Jésus est là, il rencontre une femme samaritaine. Et ça nous dit que Jésus veut rencontrer l'ensemble de l'humanité, quelle que soit sa race, quel que soit son genre, quelle que soit sa position sociale, quelles que soient ses fautes passées, puisque cette femme a eu 5 maris, et actuellement elle vit à la colle avec quelqu'un. Et je veux dire, c'est une histoire de fou, quoi. Socialement, ça ne se fait pas. Jésus, ce qu'il fait là, ça ne se fait pas. Hier, j'ai rencontré 2 témoins de Jéhovah pendant la préparation de cette prédication, qui sont venus me tenir la patte. Et Jésus m'a susurré à l'oreille, il m'a dit, c'est les Samaritains. C'est-tu comme la Samaritaine, sois un bon berger avec elle. Et puis, c'est vrai que c'était une rencontre fort intéressante. Donc, se laisser rencontrer par Jésus, c'est croire que Jésus veut me rencontrer aujourd'hui. Première attitude. Et puis, une deuxième attitude, c'est, pour être rencontré par Jésus, c'est se tourner vers qui est Dieu. Méditer qui est Dieu. On va voir après que ça ouvre à la louange, justement, c'est important. C'est-à-dire vers la sagesse et vers la vérité. Les questions authentiques de la Samaritaine, il y a vraiment un dialogue qui s'instaure. Et la Samaritaine, on voit qu'elle pose des questions vraiment qui la concernent, des questions qui la préoccupent, des questions qui la tarabustent. Et ça, ça ouvre à la sagesse de Jésus. Et aussi sur la vérité de qui il est, en vérité, le Messie. Et Jésus lui répond justement, si tu savais, on va afficher ça, Jésus lui répond, si tu savais Jésus lui répondit, si tu savais qui est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Jésus se présente comme la source et le donneur de vie, c'est-à-dire qu'il est identifié au créateur et il est identifié au donateur de la vie. Jésus dispense le don de l'eau vive. Qu'est-ce que l'eau vive? Comment comprendre l'eau vive? L'eau vive, c'est la sagesse, c'est la vérité qui est contenue dans la parole de Dieu, qu'on peut lire dans l'Écriture, mais qui est aussi cette parole incarnée, la parole vivante, Christ, et qui peut combler seule la soif spirituelle qu'il y a dans notre âme. Il y a une soif spirituelle dans notre âme, et autour de nous, dans ce monde néo-païen ou je sais pas, post-moderne, on a de plus en plus de gens qui redécouvrent leurs besoins de spiritualité. Et en même temps, il y a encore ce matérialisme où les gens ignorent qu'ils ont un besoin spirituel. Mais c'est en train de changer. Et ceux qui ont conscience de ça, on voit une grosse prise de conscience, notamment dans les 18-25. Je vois qu'ils sont en train de bouger. Donc c'est passionnant d'être dans cette époque, et en même temps c'est défiant. Et c'est le moment d'annoncer cette parole qui seule peut combler notre soif spirituelle au niveau de notre âme. Et on découvre aussi que le Saint-Esprit, cette eau vive, c'est le Saint-Esprit. C'est une source interne, en fait, qui peut nous transformer de l'intérieur. C'est une bénédiction. Ce n'est pas anodin d'être proche du puits de Jacob. Historiquement, le puits de Jacob, pour les Juifs, c'est des eaux nourricières, mais aussi guérissantes. Et c'était repris par Siloé pendant la fête des cabanes, quand Jésus dit « Venez à moi, buvez, croyez en moi, et des sources d'eau vive couleront de vous ». C'est la fête des cabanes. Et c'est intéressant parce qu'ils vont puiser aux sources de Siloé et ils amènent cette eau pour célébrer cette fête. Et vous savez, Jésus a guéri aussi le paralytique à ces sources-là. Donc il y a la guérison qui est là. Et en même temps, il dit « Tes péchés sont pardonnés ». C'est surprenant. Il y a vraiment une guérison, une restauration que Jésus annonce ici. Ici, on voit cette image qui est joyeuse aussi de cette eau vive. Et moi, je trouve que c'est tellement joyeux, quoi. Et c'est magnifique. Donc ici, l'appel qu'on peut trouver là, c'est l'affirmation, c'est que notre satisfaction est en Jésus-Christ, car il est la vie. Jésus-Christ est la vie, et cette satisfaction, elle est qu'en Jésus-Christ. Donc il est important d'étancher notre âme avec la parole de vérité, qui est cette parole de vérité et de sagesse, afin que notre âme assoiffée puisse être satisfaite. On arrive au troisième attitude, c'est se tourner vers qui est Dieu, et ça nous amène naturellement à nous détourner de nos idoles. Se détourner de nos idoles. Qu'est-ce qu'une idole ? L'idole, c'est tout ce qui prend la première place dans notre vie. La première place qui revient exclusivement à Dieu. Jésus était en train d'exposer le mystère de l'eau vive, et voici qu'il interrompt son discours assez abruptement, en fait. C'est abrupt quand il dit « va chercher ton mari ». En fait, il le fait dans l'idée d'exposer la plaie de la vie de cette personne, la Samaritaine, pour la guérir. Jésus met le doigt sur cette plaie parce qu'il veut soigner et guérir. Pourquoi ? Parce qu'il y a un obstacle qui s'oppose à cette relation d'alliance avec Jésus, et cet obstacle, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie est un péché du cœur. Et ça peut être une passion que l'on a, mais ça peut être aussi des choses qui sont bonnes, comme la famille, comme le travail. Et c'est pas l'idolâtrie, c'est plus qu'un refus d'obéir à Dieu. Hein. On dit « Ah, il faut suivre Jésus, donc obéis, quoi. » Mais attends, honnêtement, je ne suis pas en train de vivre ça. Mais c'est parce que l'idolâtrie, c'est plus qu'un refus d'obéir à Dieu. C'est une fixation du cœur entier sur autre chose que Dieu. Donc c'est un problème de cœur et qu'il s'agit de pouvoir identifier et guérir. C'est bon, ça va, vous voyez un peu l'enjeu qu'il y a là. Donc il y a un risque pour Jésus, il sait déjà bien qu'il y a un risque que l'alliance soit brisée. L'alliance entre Dieu et les hommes est souvent comparée à un mariage. Dans cette optique, l'idolâtrie peut être vue comme un adultère spirituel. Et d'ailleurs, la vie maritale chaotique de la Samaritaine renvoie à l'inconstance spirituelle de la Samarie, qui ne vit pas dans une relation fidèle et exclusive avec Dieu, mais qui cherche la vie par ses propres moyens. Pour la Samaritaine, peut-être qu'elle cherchait la vie dans ses conjoints successifs. Cela dit, les divorces à l'époque, que les Juifs toléraient, je crois, jusqu'à 2-3 divorces à l'époque, ces divorces, c'était souvent le mari. C'était le mari qui avait ce droit-là. Donc, ici, la Samaritaine, on la voit comme une figure aussi du péché, des fois. Le péché, c'est des fois ce qu'on a subi aussi. Ce n'est pas toujours ce qu'on a fait. Comment ce péché peut nous impacter. Mais au final, c'est rechercher ailleurs qu'en Dieu notre satisfaction et notre paix. Et souvent, on n'y parvient pas. Alors, comment diagnostiquer J'aime bien cette question. Hein. Comment diagnostiquer une idole dans notre vie ? C'est passionnant comme question. Alors déjà, il y a trois niveaux. C'est l'imagination, c'est les pensées et c'est les émotions. Au niveau de l'imagination, c'est vers quoi se tournent vos pensées sans effort lorsque rien d'autre ne retient votre attention. Au niveau des, au niveau des, aussi au niveau des dépenses, je trouve intéressant. Regardez comment vous dépensez votre argent, mais disons, ça coule sans effort. Ça coule sans effort. Quand je suis à la station essence, c'est pas forcément là que j'ai vraiment une idole, quoi. C'est pas, ça me coûte un peu de remplir mon plein d'essence. Mais c'est plus, ah, j'ai du plaisir à dépenser. Ça me, parce que ça révèle le plus grand amour de mon cœur. Et puis au niveau émotionnel, c'est très intéressant. On peut être les gens les plus spirituels du monde, mais quand on est en situation de stress, je note que des émotions, des réactions surémotionnelles, excessives, incontrôlables, souvent, il y a quelque chose qui traduit quelque chose de trop important pour moi. Alors, ça peut être extrême hein, dans la Bible, hein, quand Abraham, Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils, ou quand je suis à l'armée dans des situations où ma vie pourrait être menacée. Peut-être que ce qui est trop important pour moi, c'est des fois ma famille, ou ça peut être ma vie. Mais finalement, si quelque chose qui est vraiment important, qui mérite toute notre vie, notre adoration, mérite aussi de donner notre vie pour cela. Et ça va jusqu'à cet extrême-là. Et Jésus mérite que je donne toute ma vie pour lui. Alors la femme, dans ce dialogue, la femme a répondu, je n'ai pas de mari. Ça, c'est un demi-aveu. Et Jésus relève la vérité qu'il y a dans ce qu'elle dit. Et elle lui offre une possibilité de restauration. Et il en va de même pour nous. Jésus ne nous laisse pas longtemps continuer une relation spirituelle avec lui, un dialogue, une prière, sans en venir aux réalités immédiates de notre cœur. Il nous interroge souvent sur nos blessures secrètes. Et peut-être qu'à ce moment-là, on préfère rester sur la question des idées ou d'une doctrine ou d'un concept. Mais Dieu ne va pas se satisfaire avec ça. Jésus nous coupe court des fois. En nous posant des questions aussi. Il est où ton mari ? Ou nous posons aussi des questions un peu dérangeantes. Mais parce qu'il veut venir sur notre plaie pour la mettre à jour afin de nous guérir et qu'on soit restauré, qu'on soit libéré, qu'on soit attaché à lui et plus dépendant. Et ça, c'est tout Jésus dans le discipulat. Parce que non seulement il nous invite à une relation intime avec lui, mais en même temps qu'il nous invite, il nous défie. Il va nous défier notamment des comportements qui sait être mauvais ou malsains pour nous. Parce que nous sommes appelés à être l'image de Dieu sur terre. Et c'est là notre dignité. Nous sommes l'image de Dieu sur la terre. Et il vient nous chercher pour nous restaurer pleinement dans cette image de Dieu. Est-ce que ce n'est pas beau ça? On est appelés à devenir l'image de Dieu sur la terre. Et c'est pour ça qu'on désire le rencontrer. Et le servir aussi. La femme samaritaine, elle ne s'obstine pas, elle ne se justifie pas, elle n'est pas dans un déni, elle n'est pas dans une contestation. C'est une confession pour moi qu'elle nous fait quand elle dit « je n'ai pas de mari ». Et puis la suite le dit, son attitude. Si on continue justement, la quatrième attitude, c'est désirer s'approcher de Dieu et le contempler. C'est l'importance de désirer rencontrer Dieu. Et on voit chez cette samaritaine ce désir-là. Elle arrive avec cette question ici, ou cette affirmation, « Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. » C'est là qu'on voit sa soif spirituelle. Parce qu'à ce moment-là, vous avez un prophète devant vous, vous avez Jésus prophète. Jésus a révélé votre vie, il a révélé des choses personnelles. Moi, franchement, vous, qu'est-ce que vous poserez comme question à Dieu dans ce moment-là? Moi, je serais la Samaritaine, je vais vous dire clairement. Elle a eu 5 maris, elle a collé avec quelqu'un. Là, la question que je pose, mais directe, c'est « Est-ce que c'est le bon ? Est-ce qu'il va me rendre heureux ?» Franchement, il vient de révéler un truc qui à l'évidence, voilà, c'est énorme. En fait, c'est là qu'on voit sa soif spirituelle, parce qu'elle vient direct sur le sujet de l'adoration. Et elle se pose cette question de savoir où est-ce qu'on doit adorer. Il y a peut-être un peu de nationalisme, un peu de on est meilleur que vous les Juifs. N'empêche que c'est quand même la question qu'elle pose. Mais c'est une question drôlement pertinente, parce que c'est qu'au travers de l'adoration que je peux me détourner mes idoles. Parce que c'est que quand je trouve ma satisfaction en Christ, quand j'aime Christ encore plus, que ce que j'aime à côté va perdre un peu de sa force. Et je citais avant le travail ou la famille, c'est des bonnes choses, mais souvent ça peut devenir le centre de nos vies plutôt que Christ. Et Dieu, Christ ne nous demande pas d'arrêter d'aimer notre travail ou nos familles, mais nous demande d'aimer plus Christ afin de plus être esclave de nos attachements. Mais à ce moment-là, boum, arrive un troisième obstacle, c'est la religiosité. Parce que cette question qu'elle pose, elle n'est pas anodine. Elle, c'est une question qui va s'attacher à la forme, aux règles, à des principes. Moi, je dis des fois, c'est lire la Bible pour connaître la doctrine, mais on oublie de connaître qui est l'auteur de la Bible, quoi. Ça n'exclut pas de connaître la doctrine, bien sûr, mais attention, on va des fois beaucoup trop s'attacher à des règles de conduite, plus qu'à Dieu lui-même, avec des questions de « où faut-il adorer ici ?» Quelle est la vraie nature de l'adoration ? Et le mot « adorer » signifie se mettre à genoux, se rapprocher dans une relation intime d'amour. Et on voit ce gars par terre avec les mains vides, et je vous dirai pourquoi. Il est écrit « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » Waouh ! Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une relation intime que nous sommes appelés à être avec Dieu. C'est comme un père et son fils, une fille. Et c'est comme l'épouse avec Christ l'époux. Adorer en vérité, c'est adorer qui est Dieu. En vérité, qui est Dieu ? Et on a, pendant la louange, affirmé plein de vérités sur qui est Dieu. Il est le Messie, il est le Roi, il est bon. Adorer en vérité. C'est l'expression en parole et en acte du sentiment de la valeur de Dieu. Expression en parole et en acte du sentiment qu'on a de la valeur de Dieu. Mais c'est aussi adorer en esprit, parce que Dieu est esprit. C'est pour ça que Dieu est esprit, c'est pour ça que Dieu ne voulait pas de représentation de lui-même. Pas d'être physique comme ça. Dieu est un être spirituel plutôt que matériel. Puisque Dieu est esprit, l'adoration de Dieu est une question d'esprit, plutôt qu'une question de lieu ici. À noter ici que l'esprit nous aide à adorer. Alors ceux qui adorent vraiment le Père vont l'adorer avec l'aide de l'Esprit Saint. Adorer, notez, avec l'aide de l'Esprit Saint. Et moi je prie, je me dis, mais Seigneur, aide-moi à t'adorer en esprit. On n'est pas capable de louer sans l'Esprit, sans l'aide de l'Esprit Saint. On arrive vers Dieu les mains vides. On n'arrive pas avec nos mérites, on n'arrive pas avec nos œuvres. Nos œuvres, ben oui, c'est important de servir Dieu, mais ici on parle d'adorer Dieu, on arrive les mains vides pour l'adorer en esprit. On n'a pas de mérite. Si on est digne de l'adorer, c'est parce que Christ nous a donné sa justice. Adorer, c'est être en communion avec Jésus-Christ, c'est faire un avec lui. Adorer, être en communion avec lui, être en relation avec lui et faire un avec lui. Ça passe par la louange, parce que la louange conduit nos cœurs dans l'adoration. Louer, c'est dire à Dieu tout ce qu'il est et tout ce qu'il a fait. La louange conduit à l'adoration. Donc ne nous contentons pas de louer, mais adorons aussi. Et c'est là qu'il y a un troisième obstacle, c'est que rencontrer Jésus et le suivre, l'activisme et l'agitation peuvent nous priver de l'adoration. Regardez les disciples justement. Les disciples arrivent dans cette discussion, dans ce dialogue, et il pressait Jésus en disant « Maître, mange !» Ils reviennent du supermarché, bien sûr, il faut manger, il faut boire. Ils arrivent, « Maître, mange !» Et puis leur question, c'est, Jésus leur répond « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Et après, les réflexions des disciples, c'est intéressant. Les disciples se disaient les uns aux autres « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Ça fait un tel contraste avec ce qui vient d'être discuté. On vient de parler d'adoration, on était dans les hautes sphères, et boum, on revient sur des contingences bien matérielles. Et c'est important, bien sûr, il faut manger et boire. Mais quel est le message ? Il y a un quiproquo, littérairement, et c'est le deuxième quiproquo. Et c'est voulu, parce que ces quiproquos sont là pour faire rire. Alors rions des disciples, mais rions des disciples, s'il vous plaît. D'ailleurs, certains ont un peu rigolé. Et l'humour, c'est important, Dieu a de l'humour, je suis convaincu. Mais si on rit des disciples, rions aussi de nous-mêmes. Parce que, en fait, par ces quiproquos, ils nous appellent à réfléchir à notre propre comportement. Est-ce qu'on n'est pas aussi plus préoccupé et plus souvent préoccupé des contingences matérielles plutôt que de considérer avec notre cœur combien Dieu est important et de l'adorer en parole et en acte à fond, quoi. De donner notre vie pour lui, quoi. Et là, boum, ça nous dit, attention, veillons et prions, afin que nos activités ne nous privent pas de nous asseoir avec Jésus au bord du puits, afin de saisir le puits de la vie, et afin de saisir quelle est la volonté de Dieu, et pouvoir y entrer, et le suivre, bien sûr. Autrement dit, on pourrait titrer ça, trouver l'intimité avec Dieu dans notre vie de dingue. Je ne sais pas si ça vous parle, mais j'ai trouvé que ça, c'est beaucoup plus parlant, de dire trouver l'intimité de Dieu au milieu de notre ville de dingue. Parce que si on ne dit pas ça, on dit « oui, mais ce n'est pas vrai ». C'est possible. C'est possible en trouvant un bon rythme entre l'activité et le repos. Et que Dieu vous fasse la grâce de trouver ce bon rythme. Donc en résumé et conclusion, se laisser rencontrer par Jésus, c'est croire que Jésus veut me rencontrer aujourd'hui. Et c'est lui qui a pris l'initiative de me rencontrer. Je ne peux pas l'aimer sinon parce que Dieu m'a aimé le premier. Donc veillons et prions face à ce qui peut faire obstacle à notre rencontre avec Jésus et va nous empêcher de le suivre. Le fait de nous détourner de nos idoles par la repentance est important, mais il y a bien plus. Tendre vers les réalités d'en haut, de tout votre pensée, là où votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Parce qu'en Christ, il y a toute la plénitude de la vie. Il est le Créateur, il y a la vie éternelle, la vie dans sa plénitude. Et Dieu a choisi de placer cette vie dans son Fils, Jésus-Christ, le Messie. Et en lui, nous sommes comblés. Nous avons tout en lui. Et cette satisfaction est en Christ parce qu'il est la vie. Étanchons notre âme avec sa parole de vérité. Et cela va nous conduire à le louer, à dire qui il est, et aussi à désirer être en communion avec lui. Ainsi, notre cœur sera de plus en plus attaché à la parole de Jésus-Christ comme source de paix et de vie, et on sera motivé là, à faire sa volonté. Ce ne sera pas une règle ou je ne sais pas quoi. Bien sûr qu'on a entendu la conclusion un peu concrète, c'est que la solitude et le silence sont importants pour contempler Dieu. Ce n'est pas anodin que la Samaritaine est seule dans la solitude et dans le silence au bord de ce puits. C'est une bénédiction. Et c'est là où Jésus l'a rencontrée, ce n'est pas anodin. Et c'est pour ça que Jésus nous dit, « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, qui est déjà là dans le lieu secret. » Il est déjà là. Et il t'attend. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. Il y a une bénédiction qu'elle a. C'est une bénédiction spirituelle qu'il veut donner à ses enfants, à son épouse fidèle. En priant, ne multipliez pas les paroles. Pourquoi ? Parce que, oui, les paroles, c'est la communication. Mais là, on parle de communion, de relation. Des fois, c'est bien de rester dans le silence, c'est juste d'adorer. Être touché profondément par Dieu, son amour. Et c'est quelque chose de profond qui est pour l'église de Cossonay. Dieu vient vous chercher ici, croyez-le. Il va venir vous chercher là. Je veux prier pour vous pour ça et pour moi. Merci Seigneur. Nos cœurs veulent t'adorer. Notre âme a besoin de t'adorer Seigneur. Et nous voulons t'adorer de tout notre être, de tout ce que nous sommes. Hommes, femmes, quel que soit notre statut social, quelle que soit notre vie passée, quels que soient nos péchés aussi, Seigneur, tu nous revêts de ta justice, Seigneur, et nous recevons ta justice. Merci, Seigneur, parce qu'à Siloé, tu as dit, tu as guéri. Et plus que guéri, tu as dit, c'était plus rapide de dire que tes péchés soient pardonnés. Seigneur, merci parce que tu nous restaures, Seigneur, des péchés que nous avons faits, mais aussi des péchés que nous avons subis. Tu nous rends dignes, image de Dieu. C'est les lumières, incorruptibles et savoureux, à ton image, parce que tu es bon, Seigneur. Merci Jésus. Nous te prions, fais de nous des adorateurs. Père, tu désires des adorateurs en esprit et en vérité, qui louent qui tu es, qui désirent être en communication, en communion avec toi. Remplis-nous de l'esprit, c'est ton esprit d'adoration, pour que nous puissions t'adorer. Nous arrivons vers toi. Les mains vides, Nous avons les mains vides, que l'on les lève ou pas, nous avons les mains vides. On ne mérite rien. Et Seigneur, nous prions et nous pouvons dire chacun ici, fais de nous des adorateurs. Dites-le, je veux être un adorateur. Je veux être un adorateur. Parce que tu le dis dans ta parole, tu le demandes. Je veux adorer le Père. Je veux adorer le Fils en esprit, en vérité. Que ma vie t'adore, que mon cœur t'adore. Mes pensées t'adorent. Mes émotions t'adorent. Ouais. Que mon argent t'adore, Seigneur. Pour que je sois libre et non pas dépendant. Heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. Je te fais connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as pardonné mon péché. Montre-moi, forme-moi, révèle-toi à moi pour que je sois un adorateur. Et merci Seigneur pour cette sainte scène qu'on va prendre. Que le sang de Jésus me purifie et me lave. Apprends-moi, forme-moi, ne m'abandonne pas Seigneur. Et tu ne m'abandonnes pas. Amen.